Alors, je dis bien qu'il s'agit d'un chemin, d'une ascèse, d'où le titre du premier colloque de gestion mentale qui a eu lieu à Angers, sous la férule du remarquable Jean-Pierre Gattet, ici présent, dont le titre était, cher Jean-Pierre, la gestion mentale, virgule, voie vers l'autonomie. Hein, c'est un élément tout à fait essentiel. C'est tout un programme éducatif, en fait. L'autonomie est un idéal à atteindre, un idéal à proposer à l'enfant, un chemin à suivre. Mais la difficulté est grande, parce que comment être capable de se donner à soi-même la loi ou de se donner tout un ensemble de lois? Donc, quelle loi véritablement est en jeu, ou quelles sont les lois qui sont en jeu ici? Imaginons que l'enfant dispense de ses habitudes de sens. Imaginons que l'enfant a une façon d'être au monde, que l'enfant a des caractéristiques physiologiques, corporelles, etc. Eh bien, le pédagogue aura à permettre à l'enfant d'identifier ce qu'il est, finalement. De découvrir, on pourrait presque dire, la loi de son être, ou les lois de son être. Car oui, si par loi nous entendons, si vous voulez, tout un ensemble d'invariants, de relations nécessaires qui font que nous opérons de la même façon, etc., nous avons des lois personnelles, des lois intérieures qu'il s'agit justement d'identifier et de reconnaître pour être fidèle justement à soi-même. Mais il y a aussi, en face de ces lois-là, il y a la loi des savoirs qu'il faut comprendre et apprendre, avec les différents langages. Il y a la loi issue des méthodes, des disciplines. Il y a les façons de faire de l'enseignant. Et une difficulté pédagogique se pose alors, ici. L'enfant doit-il d'abord se donner les lois du savoir pour s'initier à ses propres lois ou à ses propres comportements sensitifs et cognitifs? Ou lui faut-il d'abord se centrer sur ses propres comportements sensitifs et cognitifs, sans donner la loi, pour ensuite s'ouvrir aux lois des disciplines et des enseignements? Et sachons alors que la voie vers l'autonomie, ici, c'est-à-dire se donner la loi, est problématique, car dans les deux cas, l'être humain ou l'enfant, tout simplement, peut être en conflit entre plusieurs lois qui ne s'accommodent pas nécessairement, justement. Dans le premier cas, l'être humain peut se laisser submerger par la trop grande obéissance aux règles du savoir, et se laissant submerger par la trop grande obéissance aux règles du savoir, eh bien, il inhibe sa propre liberté d'être et il n'est plus véritablement en adéquation avec lui-même. Dans le second cas, l'être humain accorde trop de place, ou pourrait accorder trop de place, ou l'enfant, excusez-moi, pourrait accorder trop de place à son soi. Et accordant trop de place à son soi, sera en situation de désobéissance à l'égard des règles et des normes du savoir et de l'enseignement. Et ne pourra donc pas accéder à l'autonomie du savoir à proprement parler. Dans le premier cas, l'enfant craindra le sentiment de culpabilité de ne pas avoir été assez attentif à son environnement, aux règles de son environnement, sans se rendre compte qu'en réalité, il est en train de s'oublier lui-même. Dans le second cas, il craindra de s'être fait avoir et d'avoir fait trop de concessions à l'égard de son environnement et donc de ne pas pouvoir être assez lui-même. Dans ces conflits ici que je suis en train d'évoquer, dans ces conflits qui justement posent le problème de l'accès à l'autonomie et à l'autonomie de la liberté, j'y la différence possible, vous l'avez reconnu, entre le composant et l'opposant, qui sont donc deux modalités de se rapporter au monde. Et nous pourrions dire que le composant comme l'opposant vivent le drame de l'autonomie. Ils vivent le drame de l'autonomie, c'est-à-dire à quelle loi dois-je me référer? À la loi de mon environnement ou à la loi de mon être? Voilà ce qu'ils se posent comme question fondamentalement. C'est ici que peuvent intervenir les vertus d'une pédagogie de la liberté. Nous pourrions informer l'enfant sur ses modalités possibles d'être au monde pour parvenir à trouver un équilibre entre les deux systèmes législatifs. Se déprendre du monde pour l'un, afin d'investir le soi. Se déprendre de soi pour l'autre, afin de reconnaître le monde. Sauf que, il faut toujours avoir ça en vue, sauf que cette déprise du monde pour l'un suppose finalement, malgré tout, de parvenir à retrouver en soi-même les marques du monde. C'est ça qui est étonnant. Alors que cette déprise de soi pour l'autre suppose malgré tout de pouvoir retrouver les marques du soi dans le monde. Et c'est de cette façon que l'un pourra se confier à lui-même et que l'autre pourra se confier au monde. Mais sinon, la relation de confiance à soi ou la relation de confiance au monde ne peut pas se faire. Alors là, je vous ai décrit en fait des structures de l'autonomie, des structures de sens de l'autonomie. C'est ce qu'Antoine de la Garandrie décrit dans Défense et illustration de l'introspection. Et bien évidemment, l'introspection ici joue un rôle décisif, hein. Et on doit comprendre ici, en reprenant ce que nous expliquait hier Pascal Chabot, que l'introspection, cette connaissance du soi, de son être propre, a une dimension éminemment projective. Car ce qui est en jeu dans l'introspection, justement, c'est non pas de s'enfermer en soi-même, mais c'est de dévoiler à soi-même les potentialités de son être et les potentialités de sa liberté en tant que telle. Donc découvrir son chemin de liberté par l'introspection. Ou comment l'introspection ouvre à l'homme cette voie vers l'autonomie, qui est tout le temps, je le dis bien, un idéal à réaliser, car on n'est jamais tout le temps pleinement, de façon achevée, autonome. L'autonomie, elle se reconstitue, elle est toujours à conquérir, d'une certaine façon. Je ne peux pas dire, voilà, ça y est, je suis autonome maintenant, j'ai grandi, je suis grand, je suis mûr, etc. Elle est toujours à conquérir. C'est une utopie, l'autonomie, en fait. Alors, je peux maintenant vous renvoyer à la phrase qu'on trouve, je suis allé un peu trop vite là, voilà, l'autonomie. Donc dans Défense, illustration de l'introspection, suffit-il de dire à quelqu'un qu'il est libre, qu'il doit s'engager comme il l'entend, pour qu'il ait séance tenante tous les atouts de la liberté entre ses mains? Même si l'invitation à user de sa liberté ne revêt pas une forme aussi simpliste, même si elle s'entoure de précautions éducatives, en insistant notamment sur les exigences qui lui incombent au regard de soi, d'autrui, de l'avenir, il ne s'ensuit pas que le champ de la conscience sera ouvert au point de pouvoir en découvrir toutes les saisons. Nous pensons que la structure de projet de sens de la liberté n'en sera pas moins déterminée et qu'il est possible... Ah, j'ai oublié quelque chose, j'ai dans la reprise de la citation. Et qu'il est possible, grâce à l'introspection, j'ai oublié un terme, pardon. Et qu'il est possible, grâce à l'introspection, d'en dégager plusieurs espèces. Voilà. Donc le rôle, je vais vous donner cette citation, pour le rôle donc, de l'introspection dans cette découverte-là. Alors, est-ce qu'il me reste encore un tout petit peu de temps pour terminer? Je voudrais... aborder mon dernier point, liberté d'être et projet d'être. Je dis bien que l'autonomie est une promesse. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est un idéal. Mais pourquoi l'homme pourrait-il se donner cet idéal d'autonomie, hein, et de parvenir à se donner à soi-même différents types de lois, finalement? Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain sent au fond de son être jaillir des impulsions personnelles, parce qu'il découvre qu'il peut surprendre son environnement, et parce qu'il voit aussi que l'autre est capable de choses imprévisibles, tout à fait étonnantes, si bien que l'être humain n'est pas un automate. L'être humain ne se comporte pas seulement comme un être déterminé par des lois naturelles. Il ne manque pas d'esprit, de réflexion, l'être humain. Il est capable d'instaurer un rapport de distance entre ce qu'il perçoit et ce qu'il pense, entre ce qu'il sent et ce qu'il pourrait exprimer à propos de ce qu'il sent, etc. Et il n'est pas enfermé, l'être humain, dans des instants présents. Il peut transcender, l'être humain, l'ici et le maintenant. Il peut se porter vers l'hier, le lendemain, le lointain. Il est capable d'initiative personnelle à l'égard du monde. Est-ce que ce n'est pas là le signe d'une liberté d'être, qui est une liberté essentielle pour Antoine de la Garandrie, sentir son être vibrer, capable d'initiative personnelle, etc. N'est-ce pas le signe d'une liberté d'être qui jouit peut-être, mais surtout qui gît en lui. Mais c'est une liberté qui peut procurer une jouissance et des joies d'être, ça c'est indéniable. Alors, je me réfère ici pour expliciter ce propos à un texte absolument admirable qui s'intitule « La valeur de l'ennui » et lui aussi je souhaite pouvoir le republier pour le rendre accessible. Et il y a des passages magnifiques, on va en lire quelques-uns, où Antoine de la Garandrie montre qu'il y a une fécondité de l'ennui. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce détour-là. Pour Antoine de la Garandrie, il ne s'agit pas de sombrer dans l'ennui, de considérer l'ennui comme une maladie, du mal-vivre. Il ne s'agit pas non plus de mettre en accusation le monde, parce que le monde n'offrirait pas suffisamment d'occasions de divertissement, etc. Antoine de la Garandrie en appelle, comme c'est écrit, et certains l'ont déjà lu, à une révolution copernicienne. Et il a cette expression extraordinairement belle où il écrit le cogit operum, la révolution copernicienne de la vie affective, et pour cela pratiquons le tout de la sensibilité. Le cogito du cœur se doit d'éloigner les instances de l'immédiat. Le cogito du cœur, c'est un je pense, si vous voulez, qui est ancré dans le senti, dans la sensualité, dans le sentiment en tant que tel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennui est une hygiène mentale, en fait. Accepter pendant un moment de ne plus être préoccupé par l'ordre du monde. Accepter de ne plus être préoccupé par les forces qui dirigent le monde. Faire l'épreuve d'un vide pour marquer une distance peut-être entre soi et le monde. Et pour permettre à notre cogito de redécouvrir de la disponibilité, notamment au niveau de son être sensible. Voilà ce qu'il est en train d'écrire, Antoine de la Garandrie. Faire en sorte, par exemple, que mon être sensible, senti, puisse se laisser émouvoir par de nouvelles impressions. Faire en sorte que mon être sentant puisse s'essayer à de nouvelles intentions, retisser en un mot un dialogue entre soi et le monde. Voilà, si vous voulez, ce que pourrait apporter un ennui fécond, et voilà pourquoi d'ailleurs il écrit que l'ennui pourrait exercer une fonction cathartique, pourrait ainsi purifier finalement l'esprit qui ne dévalorise pas il ne dévaloriserait le sensible que pour en protéger les richesses et la potentialité. Retrouver finalement du neuf en soi pour pouvoir redialoguer de façon nouvelle, donc avec le monde. L'ennui voulu, choisi, manifesterait la liberté du refus coloré, permettrait de récupérer la disponibilité des sentiments. Il s'affirmerait comme le régulateur de la vie affective. Alors, ça c'est un élément important, et c'est vraiment ici, nous avons la source de d'une liberté d'être ici, hein, de pouvoir, par cette mise à distance du monde, ressentir en soi l'épreuve d'une liberté personnelle et de prendre des initiatives personnelles. Cette expérience renouvelée, et de soi et du monde, crée un sentiment de vertige. Car la question que l'enfant peut se poser implicitement, ou que l'adulte aussi peut se poser, c'est « Serais-je de nouveau à la hauteur des exigences du monde ?» se demande notre premier individu, si vous en souvenez. « Serais-je à la hauteur des exigences du soi ?» se demande l'autre. Et là, nous sommes vraiment, si vous voulez, à la source du projet d'être en tant que tel. L'être humain se découvrant comme projet d'être. L'être humain se donne un horizon de sens qu'il lui faut investir. Et il sait qu'il va devoir investir ce nouvel horizon de sens avec des indéterminations, des choses imprévisibles, de l'inconnu, ce qui est source d'une angoisse d'être. Serais-je à la hauteur du monde? Serais-je à la hauteur du soi? D'où d'ailleurs cette phrase très belle, « Qu'y a-t-il dans ton cœur qui soulève l'angoisse j'ai fait une erreur là aussi, encore une fois. Non, c'est « Qu'y a-t-il ?» Je vais corriger le document, c'est promis. Hein. Qu'y a-t-il dans la liberté qui soulève l'angoisse dans ton cœur? Qu'y a-t-il dans la liberté qui soulève l'angoisse dans ton cœur? Se demande Antoine de la Garandrie. Ma liberté d'être se révèle dans l'expérience même du projet d'être. Et ce projet d'être, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, consiste à anticiper le dialogue possible entre moi et le monde. Ce que j'anticipe, finalement, ce sont les places possibles du monde et du soi dans ce dialogue. Qui sera le déterminant? Qui sera le déterminé? Et si je suis saisi d'angoisse, c'est parce que je sens que je risque ma liberté dans ce dialogue qui s'engage, à nouveau frais. Est-ce que je parviendrai à identifier des réalités qui me serviront de modèle dans la constitution du moi? Est-ce que je parviendrai à produire des réalisations qui seront le témoignage de mon pouvoir être? C'est ça qui est en jeu. Et donc, il y a une angoisse de se perdre, en fait, dans le monde, ou de perdre le sens du monde, ou de se perdre dans le monde en tant que tel, et qui peut être vécue de façon traumatisante. On peut même avoir la peur de l'angoisse. Et si l'angoisse de se perdre n'est pas surmontée, que se passe-t-il alors? Des émotions négatives apparaissent. Soit des émotions paralysantes, soit des émotions paralysantes. Exactement. Bravo, France. Soit des émotions paralysantes qui interdisent au soi de se donner un projet d'être positif et qui l'empêchent de s'engager dans le monde, soit des émotions précipitantes qui rendent le projet d'être inadapté aux exigences du réel. Il y aurait donc là, voyez-vous, un équilibre à trouver. Comme s'il fallait constamment réguler son rapport à la liberté, pour que celle-ci, d'ailleurs, ne devienne plus préoccupante ou obsédante. Est-ce que je vais être libre? Est-ce que je vais avoir de la liberté? Est-ce que je ne vais pas perdre ma liberté? Il s'agirait, voyez-vous, donc de trouver cet équilibre, et cela suppose un mouvement de réflexion sur soi-même et sur sa propre liberté, ça suppose d'être libre à l'égard de sa liberté d'être en tant que telle, d'avoir un regard distancié à l'égard de soi grâce au travail de l'introspection, et se donner par la suite des projets d'être par lesquels on imagine la possibilité de rapport d'adéquation entre soi et le monde, soit pour y affirmer davantage le réel, le monde, soit pour y affirmer davantage le soi. Et l'angoisse d'être, alors, pourrait être surmontée ici. Et tout un ensemble de projets de sens, sur le fond de ce projet d'être, pourrait alors s'activer en tant que tel. Et on voit bien qu'un enfant qui craint l'usage de sa liberté, ou qui a peur de sa liberté, ou qui craint de perdre sa liberté, finalement, ne peut plus se mettre en mouvement. Et donc, toute la question de la motivation, si vous voulez, se construit sur cette question-là et sur le rapport que nous avons à la liberté, si nous entendons par motivation le fait de se mettre en mouvement. C'est terminé? D'accord. Alors, j'avais un dernier élément qui relevait de la pédagogie esthétique, mais je vais... Comment ? Je vais le résumer, pourquoi pas. Je vais résumer ça par cela, oui. En fait, je voulais vous montrer comment... je vais résumer. Je voulais vous montrer comment on peut initier, mais vous le savez déjà, un enfant à sa liberté d'être par ce que j'appelle une pédagogie esthétique. Excuse-moi, il faut que je recule, je fais une bêtise. Comment faire ? Et par pédagogie esthétique, j'entends non pas la science du beau, j'entends véritablement une éducation à la sensibilité, aesthésis en grec, l'action de sentir. Cette pédagogie de la sensibilité, je la trouve admirable. C'est-à-dire qu'on permet à un enfant d'aller à la rencontre du réel. Tu dois t'en aller, mon JP. Je t'embrasse fortement et je te dis à bientôt, alors. Je dois terminer, oui, pardon. Je suis rappelé à l'ordre, c'est terrifiant. Donc, la pédagogie, cette pédagogie esthétique qui consiste donc à éveiller l'enfant justement aux beautés du monde, aux harmonies du monde, mais plus encore de permettre à l'enfant de sentir le monde et de parler des sensations que le monde procure en lui. Et à partir de là, lui permettre ou l'autoriser de prendre des initiatives par rapport à ses sensations pour dire s'il aime, s'il n'aime pas, s'il trouve cela agréable, s'il trouve ça désagréable. Et voyez-vous, dans ce travail-là, ce premier travail-là, l'enfant prend des initiatives personnelles à l'égard du réel et découvre qu'il a un pouvoir de signifier, un pouvoir de sentir, qui est un pouvoir singulier, qui lui appartient en tant que tel. Et là, il y a une initiation justement à cette liberté d'être. Et on peut, et ça sera le dernier mot, terminer par cette phrase. Alors, initiation d'ailleurs à la liberté d'être, excusez-moi, et aussi à la créativité, mais on pourrait montrer le rôle de la liberté dans les différents actes de connaissance, il me faudrait plus de temps pour cela. Et je termine par cette citation. L'imagination passe par soi, il convient donc d'aider l'enfant à accéder à l'image de lui-même, parce que je voulais vous conduire sur le chemin de la créativité à partir de cette éducation esthétique, ou comment l'enfant crée d'une certaine façon son propre soi, ou invente son propre soi dans son rapport au monde, ou découvre même son propre soi dans son rapport au monde. Donc il s'agit justement de constituer une image de soi-même qui est le moyen d'accéder au sens de sa liberté. Je vous remercie et pardon d'avoir dépassé ce temps.
Beaucoup Thierry, merci pour ce beau rappel donc de la façon dont Antoine de la Gérandrie envisageait la liberté et en particulier en revenant à ses premières œuvres dont on peut espérer une réédition, Schématisme et thématisme et la valeur de l'ennui. Et merci beaucoup, c'était vraiment un rappel important et précieux pour nous. Alors je vais très rapidement conclure ce colloque parce que voilà, nous sommes au bout du temps. Auparavant, je voudrais vous rappeler de bien remplir, si vous le pouvez, la petite fiche d'évaluation qui est à nous transmettre, si possible, avant que vous partiez, si vous en avez le temps, car pour nous, c'est évidemment très précieux de savoir ce que vous avez pensé du déroulement de ce colloque. Très rapidement, pour conclure sur ce thème de la liberté en éducation, je pense que tout au long du colloque, donc on a vu, on a abordé, on a exploré différents aspects, différentes dimensions de la liberté, telle qu'on peut la vivre en gestion mentale, telle qu'on peut la percevoir, une liberté qui peut être faite de fidélité, qui peut être faite d'inventivité, voire de transgression, qui peut être faite aussi d'autonomie, de responsabilité, voire de solitude, comme nous l'a rappelé Jean-David Norman ce matin. On a bien perçu aussi, je crois, le poids des contraintes qui pèsent sur cette liberté, que ce soit des contraintes générales qui viennent du contexte, Pascal Chabot nous a rappelé le poids du système, le poids des ultra-forces, et puis les contraintes aussi qui sont plus inhérentes aux personnes, que ce soit les apprenants, que ce soit nous-mêmes aussi, dans nos hésitations, nos petites lâchetés peut-être aussi, et les choix que nous faisons parfois de façon inconsciente, les contraintes aussi qui sont inhérentes aux objets d'apprentissage, ou aux tâches, dans les passages obligés qui sont imposés, dans les obstacles épistémologiques qui nous ont été rappelés, notamment dans l'atelier emmené par Armel et son équipe et à d'autres moments aussi du colloque. Alors, si je reviens à notre intitulé initial, la liberté en éducation, utopie ou réalité, j'ai quand même envie de défendre une part d'utopie. L'utopie est nécessaire. Je crois qu'elle est importante pour un éducateur, parce que finalement, et Thierry l'a très bien rappelé tout à l'heure, tout est incertitude dans le projet d'éduquer. L'autonomie, comme tu l'as rappelé, est toujours à conquérir. Et nous sommes, nous avons forcément, le projet d'éduquer s'accompagne forcément d'une confiance en l'avenir qui peut être estimée naïve, mais qui, pour nous, est absolument indispensable pour continuer à œuvrer, continuer à faire notre travail, à accompagner, à enseigner, etc., etc. Alors, néanmoins, je pense qu'au cours de ce colloque, il y a un certain nombre de, enfin, beaucoup d'expériences qui ont montré qu'on peut passer de l'utopie à la réalité. Et j'espère, et au nom du conseil d'administration, un autre espoir, évidemment, est que vous repartiez de ce colloque avec à la fois une part d'utopie qui serait donc nourrie, et puis, bien sûr, des projets concrets, des projets concrets d'application, des projets réalistes, des pistes à mettre en œuvre, de manière à stimuler votre liberté pédagogique. Alors, notre espoir aussi, et là je m'exprime vraiment au nom du conseil d'administration d'IGM, c'est que vous restiez en lien avec nous le plus régulièrement possible. Je voudrais vous rappeler ici ce qu'on a dit lors de l'Assemblée Générale d'hier soir, mais là vous êtes plus nombreux, donc j'en profite, ce qui nous importe, c'est que vous restiez donc en lien régulièrement avec nous. Alors je pense à deux aspects importants. D'une part, la veille. Par la veille, nous, ce que nous souhaitons, c'est que vous nous signaliez tout ce qui peut sortir, être publié, que ce soit sous format papier, sur Internet, quel qu'en soit le média, concernant la gestion mentale, d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif, peut-être là aussi où elle vous semble manquer, dans des publications générales sur les apprentissages, la pédagogie, etc. etc. Par ailleurs, je vous rappelle que nous allons lancer donc très prochainement de nouveaux collèges, avec en particulier le collège recherche qui va être piloté par Vinciane Thomas. Et ce collège recherche va continuer à développer l'exploration du mouvement. Et c'est vraiment un projet important parce que donc le premier collège recherche avait commencé il y a 4 ans, il va être perpétué pour continuer cette exploration qui, je crois, justement, par rapport à ce qu'on a dit rappelé sur la fidélité inventive, c'est un moyen justement d'aller plus loin dans les apports théoriques de la gestion mentale qui s'appuient évidemment sur des expériences et des explorations de vécu individuel. Et puis, deux collèges formation, l'un sur la validation des acquis d'expérience, qui va être piloté par Catherine Caillé, et l'autre sur les transpositions didactiques de la gestion mentale, qui va être piloté par Luc Fauville, qui est ici. Et nous avons prévu donc une journée pour rassembler toutes les personnes intéressées par ces deux collèges, qui sera la journée du 8 février, du samedi 8 février 2020, donc hein, 8 février prochain. Donc si vous êtes intéressé par cette réflexion, enfin par l'une ou l'autre de ces réflexions, la validation des acquis d'expérience est essentielle pour en travaillant évidemment avec les organismes de formation, mais pour donner une légitimité à des personnes assez nombreuses qui ont eu des parcours discontinus ou, on va dire, non orthodoxes, entre guillemets, dans la gestion mentale. Et ça me paraît être un élément important, enfin ça nous paraît être un élément important qu'il faut travailler, formaliser, parce que c'est un vieux serpent de mer, en fait. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et ça serait important d'avancer. Voilà, et puis sur la transposition didactique, enfin sur les transpositions didactiques de la gestion mentale, ça c'est une autre question essentielle qu'il va falloir réfléchir, à approfondir avec le plus de participants possible. Alors, Ben, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon retour. En vous remerciant encore de votre participation. En espérant vous revoir surtout le plus tôt possible. Et en espérant rester en lien avec vous le plus régulièrement possible. Voilà, merci à vous.
C'est la trésorière qui parle.
Le mot de la fin sera pour la trésorière.
Bah non, c'est embêtant parce que c'est plutôt négatif. Ça. Enfin, c'est pas dans la tonalité du colloque là. Mais bon, je suis quand même trésorière et puis nous sommes tous des bénévoles. Nous sommes. Voilà, bon sang. C'est une pour moi. Merci. Hein. Voilà, je suis trésorière. Qu'est-ce que je disais? Oui, nous sommes tous des bénévoles, nous ne sommes pas organismes de formation. Donc, nos ressources, c'est principalement les adhésions. Donc, c'est vrai que j'aimerais qu'il puisse y avoir des relais dans les différentes instituts de formation pour dire que l'IGM, rappeler le rôle de l'IGM, son importance, permettre aux acteurs, à tous les acteurs de se réunir, donner plus de visibilité aussi à la gestion mentale, donc servir tous les organismes de formation. Mais rappeler que 32 euros d'adhésion à l'IGM, c'est pas énorme finalement. Hein. Je disais hier que c'est quoi 10 cafés parisiens. C'est un petit peu plus en chemin, mais voilà. Donc si c'était possible, ce serait bien. Merci.